Il y a des choses que je ne vais pas reprendre parce qu'elles ont été dites, justement, je vais passer un peu plus rapidement sur certains points. Déjà, le tableau de naissance en France, il y a des chiffres qu'on répète souvent, des chiffres actuels de la périnatalité. Pardon ? Ah pardon, je suis Bernard Bell, je suis secrétaire de l'Alliance de la FAR. Voilà. Voilà. Je suis aussi webmaster du portail Naissance, dont vous verrez l'URL ici. Alors, la naissance enfant, je ne vais pas revenir sur tous ces chiffres-là, mais il y a quand même quelques remarques qui peuvent se faire. C'est quand même surprenant encore, oui, qu'il y ait 50% des accouchements qui aient lieu sous ocytocique, hein, donc on a quand même dénoncé ça un petit peu. Le fait qu'il y ait 70% de péridurale en France, alors qu'en moyenne, apparemment, aux Pays-Bas et en Allemagne, on est à 10 à 30%, ça ne veut pas dire, je pense, que les Hollandaises et les Allemandes aient envie de souffrir. Enfin, vous voyez, on entend souvent ce prétexte-là, les femmes ne veulent pas souffrir, mais il y a peut-être une approche qui est un petit peu différente, justement, de l'antalgie. Bon, les épisiotomies, on a reparlé, les déclenchements, bien sûr, les césariennes, ce taux qui est en hausse dans tous les pays industrialisés, donc c'est inquiétant. Ensuite, les amniosynthèses, eh bien, je voulais signaler qu'en France, on a à peu près 11% d'amniosynthèses, et qu'en Angleterre, par exemple, on est arrivé à 5% d'amniosynthèses seulement pour un même taux de détection, donc il y a tout un travail qui se fait actuellement pour montrer qu'avec d'autres protocoles de détection de la trisomie 21, on peut arriver à une aussi bonne détection, mais si on a deux fois moins d'amniosynthèse, on a aussi deux fois moins de fausses couches causées par l'amniosynthèse, puisqu'on a à peu près, on perd à peu près 1% de fœtus. Donc c'est quand même un point qui est très important. Le CIAN, justement, travaille là-dessus actuellement avec une équipe française. Bon, parmi les femmes qui souffrent de ce qu'on appelle, soi-disant, la dépression postnatale, c'est une espèce de fourre-tout, comme vous savez, où on met beaucoup de choses, qui compte à peu près 10 à 15% apparemment. Il y a une étude australienne qui a signalé, qui a montré qu'un tiers à peu près d'entre elles présentaient plusieurs symptômes d'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'elles avaient subi un traumatisme. Donc ça pose aussi des questions, parce que ça, ce n'est pas quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui s'observe, qui doit se diagnostiquer immédiatement après la naissance. Donc ça montre qu'il y a des traumatismes qui se font en partie dû à la iatrogénie. Donc ça pose des questions. Hein. Je n'ai pas les réponses pour ça, mais je veux dire que ce tableau-là me pose quelques questions. Alors, je voulais quand même dire, on a parlé tout à l'heure de la direction du travail ou gestion active, enfin, active management. Il y a un aspect de la gestion active quand même qui est important, c'est qu'en 1963, pour une primipare, on estimait en moyenne la durée d'un accouchement à 36 heures. Puis subitement en 68 on passe à 24 heures et puis en 72 on passe à 12 heures. Ça, ce sont des chiffres anglais, mais je pense que chez nous c'est un peu la même chose. Et puis aujourd'hui on est rendu à 8 à 10 heures, je pense, en moyenne. Donc tout ça, c'est pas parce que la physiologie des femmes a changé brutalement, c'est parce qu'on a appliqué certaines méthodes. Et là j'ai trouvé très bien justement que Bernard Maria souligne la mauvaise compréhension de cette idée initiale de gestion active, parce qu'il y a eu un aller-retour avec les États-Unis, justement, où on a abandonné tous les trucs intéressants. Et puis on a retenu quoi ? Eh bien, on a retenu une espèce de... une gestion que j'appellerais productiviste, pour comparer avec l'agriculture et l'élevage. Dans l'élevage industriel, vous savez sans doute que quand on élève des poulets en batterie ou autre, il faut beaucoup plus de surveillance, il faut beaucoup plus de médicalisation, de vaccination, etc., parce que c'est très fragile. Eh bien, c'est un petit peu pareil, la naissance, dès qu'on met de la productivité, ça devient très fragile. Je dirais une chose aussi, c'est que si on m'envoie dans un club sportif en me disant « Ah ben chez nous, vous savez, il faut faire le 100 mètres en 10 secondes, hein, puisque c'est la norme, mais on va vous donner des médicaments pour faire ça », je ne pense pas que je serai très bien dans ce... Enfin, que physiquement, ça me conviendra beaucoup. Donc on est un peu dans cette optique-là, avec cette idée, pour des raisons économiques justement, d'avoir des accouchements à la chaîne, et rapides et calibrés. Donc ça, c'est pas nouveau pour vous. Donc, à ce moment-là, quand une femme, si on a une moyenne de 12 heures à 8 à 10 heures pour un accouchement de primipare, de femme primipare, où est la physiologie, quoi ? On ne peut pas parler de physiologie dans ce cadre-là. On est plutôt dans un cadre de dopage sportif, si vous voulez, mais pas vraiment quelque chose de... Donc, si on veut revenir à la nature, ben, il faut revenir déjà, remettre en cause toute cette idée de calibrage de la durée. Bon, la question de la sécurité dans le grand public, dès qu'on prononce le mot accouchement, les gens pensent sécurité. Que veut dire la sécurité? Eh bien, en Angleterre, il y a beaucoup de choses qui ont changé à la publication de ce bouquin de Marjorie Tew, qui est une statisticienne, et qui a montré en fait que pour un pays comme l'Angleterre, on avait des statistiques bien précises. Les Anglais sont très forts en statistiques sociales et en général. Et ils ont montré que, effectivement, à partir de 1950, la mortalité périnatale a fortement diminué. Donc, en Angleterre, comme dans tous les pays, disons, industrialisés. Il y a une diminution, en même temps il y a eu une médicalisation de l'accouchement, puisque les femmes sont venues accoucher en hôpital, sous surveillance. Donc jusqu'aux années 70 à peu près, les deux, enfin, la mortalité diminue, puis la médicalisation augmente. Puis après 1970, la médicalisation continue à augmenter, toujours pour des raisons de sécurité, mais les chiffres périnataux se stabilisent. C'est-à-dire il y a plus d'augmentation. Et donc les conclusions de Marjorie Tew, mais c'est un bouquin qui est très détaillé et qui va chercher beaucoup de choses. C'est que la principale raison de cette diminution de mortalité, ce sont l'amélioration des conditions sanitaires, en général, du mode de vie des femmes, etc. Bon. Alors, je dirais aussi que dans les pays, au contraire dans les pays du tiers-monde, et ça j'ai vu ça avec des démographes indiens, qui remarquent que entre 1950 et 1970, la mortalité périnatale a été divisée par 10 en Inde. Or, la plupart des accouchements ont encore lieu dans des campagnes. Il y a eu aucune médicalisation. Mais la différence de vie, c'est que dans les campagnes, il y a des conditions sanitaires bien meilleures, l'accès à l'eau potable, meilleure alimentation, la fin des famines, etc. Bon, les travaux un peu moins pénibles, etc. Donc, il y a eu une découverte, disons, en Angleterre, où on a commencé à se dire, tiens, c'est peut-être pas la médecine qui résout en elle-même les actes médicaux, qui résolvent tous les problèmes. Donc, il y a eu cette demande, justement, d'une médecine evidence-based, en disant on va n'appliquer que les actes qui sont justifiables, qui sont justifiés. En même temps, dans les années 60-80, il y avait déjà des mouvements en Angleterre qui réclamaient une certaine liberté au niveau de la naissance. En 1981, il y a eu un événement fondateur, on pourrait dire. À l'hôpital Hampstead, il y avait une femme qui voulait accoucher en position accroupie. Et elle avait écrit à l'hôpital pour exprimer son désir. Quand elle est arrivée pour accoucher, eh bien la sage-femme, ça ne lui a pas plu. Elle s'est assise dans un coin en croisant les bras, en disant, bon, moi je ne peux rien faire. Enfin, je n'accepte pas de vous accompagner dans ces conditions. Elle a accouché dans des conditions qui ont été assez catastrophiques, ce qui a mis très en colère un groupe de femmes qui s'appelait Active Birth autour de chez la Kitzinger et autres, qui prônaient la liberté de déambulation, de position, etc. Donc, elles ont décidé de faire un sit-in devant l'hôpital. Donc, au début, ils se sont dit, on se retrouve avec 50 femmes enceintes devant l'hôpital pour protester. Mais en fait, l'information a circulé très vite, même à cette époque où il n'y avait pas Internet. Ils se sont retrouvés à 6 000 personnes qui se sont trouvées en sitting devant l'hôpital, des gens qui sont venus même de Scandinavie, d'autres régions d'Angleterre. Et ils ont remis une pétition au directeur de l'hôpital qui a démissionné. Donc, ça a entraîné la démission du directeur de l'hôpital. Et ils ont remis une autre pétition qui a recueilli 12 000 signatures, qui a été remise au Parlement anglais et destinée à une commission parlementaire. En Angleterre, il y a une commission parlementaire permanente qui s'occupe de la périnatalité et qui se réunit à peu près tous les 10 ans pour revoir la politique de périnatalité. Donc cette commission a été saisie, donc c'était en 83 déjà que ça se passait, pour revoir la politique de périnatalité. Donc il y a eu des enquêtes, une enquête parlementaire approfondie, avec justement la recherche d'evidence-based, enfin de données factuelles. Et en 92, il est paru un rapport qu'on appelait Changing Childbirth, qui a été très important, qui a été très lu, et dont les conclusions sont assez surprenantes, parce que ce qui a été conclu par les parlementaires en 92, c'est à peu près ce qu'on préconise aujourd'hui, enfin quand on parle entre nous, par exemple, d'augmenter le nombre de sages-femmes et peut-être même de diminuer le nombre d'obstétriciens. Vous voyez, enfin, à cette époque, il y a eu quand même un rééquilibrage de la politique périnatale. Ce n'est pas pour ça qu'on est arrivé au paradis, loin de là, mais disons qu'il y avait une prise de conscience qui s'est faite à cette époque-là. Donc la question de sécurité est fondamentale et c'est pour ça que je ne suis pas surpris que c'est intéressant que Sophie sorte son bouquin sur le thème de la sécurité, en disant on recherche une naissance plus naturelle. Pour nous, c'est très important de dire que Si on veut une naissance plus naturelle, c'est pas parce qu'on veut revenir en arrière dans des conditions d'accouchement, comme on dit, comme en Afrique, et patati patata, avec une femme sur deux qui meurt. Enfin, on raconte un peu toutes sortes de choses. C'est pas un retour en arrière, c'est au contraire aller en avant dans le sens de la sécurité. Je crois que ça a été très bien démontré par Bernard Maria et Bernard de Gasquet notamment. Bon, voilà. La question du droit aussi, voilà. Une chose qu'on lit sur un site internet d'une maternité de Grenoble, voilà. Voilà, bon, c'est ce qu'on entend dans le milieu professionnel, hein. Et la thème d'obéissance, on a attaqué récemment un chercheur français, j'ai plus son nom, enfin quelqu'un qui avait publié un article justement sur on a besoin de l'obéissance de la femme pour appliquer la ventouse correctement. Donc on a eu une discussion avec lui, il a reconnu quand même que cette terminologie était un petit peu. Il faut peut-être remplacer obéissance par coopération, quoi. C'est quand même différent. C'est pas Méliès, non, c'est un autre. Oui. Bon, ça a été un échange qui est publié sur Internet, très intéressant. Bon, ben voilà, le code de la santé publique, on en a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, en théorie, ben, si la maternité vous dit ben, vous devez accoucher allongé sur le dos, c'est pas à vous de venir avec des études scientifiques disant ah oui, mais il est prouvé que patati patata. Non, d'après la loi, c'est l'équipe médicale qui devrait vous prouver que c'est meilleur pour vous et pour votre bébé. Elle devrait le prouver à partir des données scientifiques. Bon. Elle aura beaucoup de difficultés parce que nous, notre compilation scientifique de 98 études là qu'on a publiées maintenant sur Internet, au contraire, toutes les études vont dans l'autre sens, dans le sens de la mobilité, de la verticalité, etc. Donc, en théorie, c'est ça. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas très bien, qui prennent une attitude radicale et qui disent bah, j'ai le droit de ça, je vais faire un projet d'accouchement, je vais copier sur Internet un projet d'accouchement, je vais mettre ça, et puis je l'envoie en recommandé avec accusé de réception. Au directeur de l'hôpital avec copie, etc. Bon, après ça se passe mal comme par hasard, oui, bien sûr, c'est évident que c'est pas comme ça que, même si c'est le droit, c'est pas parce qu'on a le droit qu'on peut aborder les choses de cette façon-là.
Le contrat de soins, c'est pas un droit.
Voilà, alors tout ça se passe, effectivement, voilà.
C'est pas la
Oui.
même chose.
Dans la réalité, il y a un contrat de soins entre le. D'après le code de déontologie médicale, il y a de facto un contrat de soins qui s'établit implicitement entre les soignants et les usagers. Et donc, si on est dans un cadre contractuel, je ne vais pas développer ce point-là, mais Sophie est beaucoup plus calée pour moi pour le faire, eh bien, il faut se souvenir que quand on fait un contrat, c'est pour satisfaire et protéger les deux parties. Voilà. Satisfaire et protéger les deux parties. Donc, les patients ont des droits, les soignants ont aussi des droits, disons, et puis il faut arriver à concilier des choses qui sont quelquefois contradictoires. Voilà. Alors bon, la question de la confiance, je voulais dire, c'est quelque chose de très compliqué, et Gilles l'a montré tout à l'heure avec sa diapo qui est très longue, je ne vais pas la reprendre. Pour nous, ce que nous défendons plutôt à la FARE, et je dirais plus généralement sur la liste naissance, et autour en fait du portail naissance, c'est là que vous trouverez les liens vers la plupart de ce dont à quoi je fais référence, c'est d'abord de reconstruire le tissu social de la naissance. Alors ça se fait à travers, ben, pour nous, ça se fait à travers des moyens gratuits qui sont à notre disposition, c'est-à-dire sur Internet, les listes de discussion, qui peuvent être des listes privées, semi-publiques ou publiques. Bon, reconnaissance, c'est public, c'est on discute en public, et voilà, on prend sa responsabilité en public. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. La lettre périnatalité que Sophie fait circuler, qui est une lettre de diffusion d'informations, etc., trouverez tout ça sur le portail Naissance, c'est très important. Ensuite, on organise ben, l'été souvent des rencontres, des forums de libre parole, etc. C'est très important parce que ça permet de faire parler les sans-voix ou les opprimés, pour utiliser la terminologie de Paulo Freire. Effectivement, les femmes, par exemple, qui ont subi, on a entendu tout à l'heure un discours, une femme qui a subi un accouchement difficile, elle s'est sentie opprimée, tout simplement. Donc, quand la parole commence à venir, eh bien, il y a quelque chose qui commence à sortir. Mais il n'y a pas que les femmes. Dans la reconnaissance, les femmes ont commencé à parler les premières années, puis après, ce sont les hommes qui se sont mis à parler. Parce que les hommes aussi sont sans voix devant la naissance, et on s'aperçoit que quand ils parlent, quand les hommes commencent à parler, eh bien, tout commence à basculer aussi. Parce que ça bascule au niveau du couple, du projet de naissance, mais dans quelque chose de plus global. Et finalement, on en arrive à la dernière rencontre de naissance de l'été dernier. Eh bien, on ne parle plus d'accouchement. Plus personne ne parle d'accouchement parce que les parents qui sont là, qui sont revenus plusieurs fois, souvent pour beaucoup, eh ben, il y avait pourtant quatre femmes enceintes à l'été dernier, je crois, qui n'ont absolument pas parlé de leur projet d'accoucher, ni rien, comment elles allaient accoucher, ni avec qui. Enfin, on n'en a pratiquement pas parlé. Et ce dont on parle, c'est le rapport avec les enfants, le couple, la société, les changements que ces naissances ont induits chez ses parents, souvent, ça aboutit quelquefois à des changements de métier, de mode de vie, de mode d'alimentation, de rapport avec la... Donc la naissance a fait changer beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et l'accouchement en lui-même ne devient plus un problème, ça devient finalement une continuité dans cette vie-là, c'est tout, quoi. Il est problème parce qu'il a été détourné par le système médical. Alors après, il y a la FAR, effectivement, qui délivre de l'information juridique et scientifique. On a une base de données de références scientifiques en ligne qui contient plus de 1 000 références actuellement, qui est alimentée par des volontaires, qui est bilingue, français-anglais. Et ça, c'est à destination du grand public. Donc ça peut être les parents, mais ça peut être aussi, bien sûr, les professionnels. Ça nous sert à servir des référentiels. Et puis, ce qu'on pourrait appeler le lobbying auprès des autorités sanitaires, c'est-à-dire sous le rôle que nous jouons dans le cadre du CIAN, que Gilles vient de présenter. Voilà. Où la FAR, plus particulièrement, va fournir souvent ce qu'on appelle le référentiel scientifique dans le jargon administratif. Bon, je crois, voilà, j'ai terminé.